Il est 8h39.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000 avec nous, Caroline Forest, génie de la laïcité. Ça paraît cette semaine chez Grasset avec pour sous-titre « La laïcité n'est pas un glaive, mais un bouclier ». Nicole nous appelle de Paris. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà, je suis directrice d'école et je voudrais interpeller Caroline, dont je suis le combat pour la laïcité depuis 2003, quand j'ai découvert son livre « Tir croisé, la laïcité à l'épreuve des intégristes juifs, chrétiens et musulmans ». Donc j'admire son combat, mais je ne suis pas du tout d'accord avec son avis qu'elle maintient sur les accompagnateurs des sorties scolaires. Elle trouve que c'est tout à fait normal que des mères voilées affichent leurs signes religieux pour accompagner les sorties scolaires, alors que moi, en tant que directrice d'école et même en tant qu'accompagnatrice, je sais que ces sorties sont pédagogiques, sont sous l'autorité de l'Éducation nationale. Et c'est une extension donc de ce qui se fait en classe. En 2004, il y a eu la loi 2004 qui interdit les signes religieux. Et en plus, les parents sont assurés par l'Éducation nationale. Et je vois de plus en plus, je vois les parents qui sont choqués, des parents laïcs qui sont choqués de voir des mères accompagnatrices, par exemple, au Jardin des Plantes. On voit des mères qui accompagnent des sorties et qui sont voilées des pieds à la tête. Naturellement, on voit leur visage, mais c'est quand même un signe religieux et c'est très choquant, par rapport, et ça peut être pour des parents qui sont laïcs, c'est vraiment... Voilà.
Restez à l'écoute, Nicole, restez avec nous, Caroline Forest.
Oui, bonjour Nicole, merci de cette question. C'est un débat que j'ai très fréquemment depuis des années avec des organisations laïques. D'abord, je comprends qu'on puisse souhaiter toujours que ces enfants, même dans les sorties pédagogiques, soient encadrés par des gens qui correspondent plutôt à sa philosophie, mais je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là pour une raison simple. C'est pas une question tellement juridique, c'est même une question simplement de générosité pour faire comprendre la laïcité. Ces sorties, même si c'est plus compliqué à vous, comme directrice d'école à gérer, c'est un pont entre l'école et l'extérieur. Ces mères sont des adultes, elles ont fait leur choix. Et je pense que le régime de liberté de la laïcité, c'est aussi d'être très exigeant au niveau des élèves, des enseignants, de ceux qui représentent le service public pour essayer de fortifier la citoyenneté, le goût de l'égalité homme-femme. Mais une fois que des adultes ont fait leur choix, c'est très difficile de leur imposer cette mesure visant à dire si vous portez le voile, vous ne pouvez pas accompagner les sorties scolaires de vos enfants ou de leurs camarades. Et je pense surtout que c'est un message qui ne passe absolument pas. On a déjà tellement de mal à faire expliquer la loi de mars 2004 à des élèves qui ne comprendront pas qu'on leur dise ta maman ou la maman de tes camarades ne peuvent pas accompagner une sortie scolaire parce qu'elle porte le voile alors qu'elle est adulte et que c'est son choix. Et je pense que là, on doit faire un geste, nous, laïcs, on doit dire, on a sanctuarisé, entre guillemets, l'intérieur de l'école, mais pour ce qui concerne le pont entre l'école et l'extérieur, nous, on fait un geste. Si vous pouviez en faire un en face et arrêter de raconter toute la journée que la laïcité vous opprime et est islamophobe, on avancerait peut-être tous dans la bonne direction.
Donc, si je vous entends, Caroline Forest, il y a les principes et puis il y a le principe de réalité. Il y a une forme de...
Surtout que là,
d'apaisement
une...
que
oui.
vous prenez en
on
cas
est dans une
ces...
zone grise qui n'est pas totalement codifiée, réglementée il y a une circulaire Châtel et il y a une nouvelle circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui permet aux directeurs d'établissement, en cas de prosélytisme, en cas de geste déplacé, que ce soit d'ailleurs un parent qui aurait des propos racistes ou que ce serait une mère qui ferait du prosélytisme fondamentaliste, dans les deux cas, le directeur d'établissement a tout à fait la marge de manœuvre pour y mettre un terme et ne pas laisser ses parents faire des sorties scolaires.
Autre question, celle de Mohamed qui nous appelle de Toulouse. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde, merci de prendre ma question. Donc moi je voudrais aussi parler du foulard. On voit qu'il y a une véritable phobie, il n'y a qu'à entendre les propos de cette dame là qui vient d'intervenir, qui dit que ces femmes qui sont voilées de la tête aux pieds, posent un problème. Donc moi ça me gêne beaucoup, et puis on voit qu'il y a de la surenchère politique. On a entendu M. Sarkozy nous dire que lui voulait interdire le port du foulard à l'université. Donc moi je m'interroge beaucoup parce que je me dis que finalement on va exclure encore plus ces filles qui justement veulent s'émanciper par l'éducation. et on va exclure encore d'autres personnes, notamment ces dames qui veulent accompagner leurs enfants lors de sorties scolaires, parce que il faut pas rêver, contrairement à ce que nous dit cette directrice, si on veut interdire le port du foulard au prétexte que c'est du prosélytisme, en réalité on va favoriser encore plus l'exclusion et on va favoriser encore plus le repli identitaire et communautaire, ce qu'on est censé combattre, je crois, tout le monde, les uns et les autres. Voilà.
Merci pour cet appel et ces remarques, Mohamed. Caroline Forest, c'est compliqué, hein?
Mais évidemment que c'est compliqué, et évidemment que c'est pour ça que je pense qu'il faut encore une fois faire une pause législative, et que ça n'est pas sérieux quand Nicolas Sarkozy propose d'interdire et uniquement les signes distinctifs d'une religion dans l'espace public, en dehors de ces zones civiques très fortes que sont l'école laïque, et les services publics, et les hôpitaux en termes de règlement, qui c'est déjà fait. Ça n'est pas sérieux, et en même temps j'ai envie de dire... Vous savez, dans ce livre, j'essaie d'être fidèle à une ligne qui est celle de Ferdinand Buisson, qui disait « Il faut déjouer la double tactique des ennemis de la République, ni capitulation, ni persécution. » Ni capitulation, ça veut dire qu'il ne faut pas banaliser le port du voile. En tant que féministe, je reste choquée par cette mode, par le fait qu'elle se soit de plus en plus à la mode, non pas que des mères un peu traditionnelles le portent, je suis choquée que des jeunes générations le portent par rébellion.
Même
c'est-à-dire...
si vous dites dans votre livre que vous pensez que l'immense majorité des femmes et des filles voilées aujourd'hui le font parce qu'elles le veulent, parce que c'est leur souhait.
Mais qu'on arrête ce faux débat, il n'a jamais été question de se demander simplement si c'était par choix ou pas. Par choix, on peut tout à fait militer pour la réaction, pour la misogynie volontairement, ça n'est pas pour autant
pardon,
du
ce
féminisme.
Ce débat existe, enfin, il y a eu des voix pour dire que ces filles le faisaient sous la contrainte. Hein.
Bien sûr, mais
ou
je suis...
Ou par aliénation, oui.
D'accord, mais moi je suis stupéfaite par notamment la prise de parole de certains universitaires qui a tendance à considérer que c'est du féminisme toute forme de servitude volontaire. Quand on rejoint une idéologie qui prône l'inégalité homme-femme, ça n'est pas forcément du féminisme, même si on le fait volontairement. Donc c'est pas seulement la question. Donc on peut, comme féministe, encore une fois, être choqué, pas tellement à titre individuel, pas pour juger les personnes dans leur champ individuel, simplement pour prendre conscience de la résonance de ce ralliement dans le contexte actuel, et vouloir en tant que laïque garantir les libertés individuelles, la liberté de conscience, la liberté aussi culturelle à l'intérieur de sa liberté de conscience. Donc voilà, en tant que féministe, je suis toujours choquée par la mode du voile. En tant que laïque, je ne suis pas pour l'interdire partout.
Même si, argument entendu encore cet été, au moment du resurgissement du débat autour du burkini sur les plages, etc. Je veux pas qu'on y revienne, etc. Mais cet argument massue, chacun s'habille comme il veut sur les territoires français.
Oui, à la limite, ce qui est de ne pas couvrir son visage, parce que là, c'est dissimuler son identité,
oui, ça
porte atteinte à l'ordre public. C'est pas une loi laïque, c'est une loi de sécurité publique. Bien sûr, chacun s'habille comme... Enfin, après, on peut pas se balader nu dans la rue non plus.
Non.
Donc, l'ordre public a aussi ses limites. Mais on a quand même le droit de continuer à avoir un avis sur la direction que prend le monde. Quand vous voyez que dans la plupart des pays, les femmes qui portent des pantalons se font arrêter, que celles qui ont les cheveux découverts se font frapper et emprisonner, vouloir soutenir plutôt cette façon de réguler la mode vestimentaire, ça n'est pas un choix anodin, c'est un choix éminemment réactionnaire, éminemment anti-féministe. Et en tant que féministe, on a quand même encore le droit de ne pas le banaliser.
Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et au Standard à propos d'une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, Caroline Forest, et dans la même phrase, il y avait « école privée et haine de la République ». Christine nous appelle de Sainte-Foy-les-Lyons. Bonjour Christine.
Bonjour Christine.
Oui, bonjour. Je ne disais pas que Madame Forest avait prôné la haine de la République.
Non.
Mais voilà.
Ah, quand même pas.
C'était les écoles privées qui étaient. Il y avait une généralisation sur les.
Vous allez me permettre
de préciser. Privées, voilà.
Oui, non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai dit que la haine de d'autres religions, notamment la religion musulmane, ça, je m'insurge complètement en faux là-dessus parce que l'école privée que je connais, parce que mes enfants étaient à la fois dans l'école privée et l'école publique, donc je connais bien les deux, et les écoles privées accueillent les enfants de modestes, et notamment des enfants musulmans, qui eux, lorsqu'ils ne peuvent pas payer vraiment la somme requise pour intégrer ces écoles privées, payent des sommes absolument modestes, et sont les autres qui payent pour ceux qui ne peuvent pas. Voilà, c'est donc il y a une sorte de justice. Donc, vous avez parlé de 10 milliards qui sont offerts à l'école privée, mais si les enfants des familles modestes ne peuvent plus aller dans les écoles privées, ils iront dans l'école privée publique. Donc, du coup, ces 10 milliards, il faudra bien les utiliser pour les intégrer, tous ces enfants qui ne peuvent pas aller dans les écoles privées. Donc, en fait, financièrement, ça s'annule. Enfin, je veux dire, le budget, il servira à rien, quoi.
Mais moi, je préfère, Christine, d'abord, merci pour votre question. Ça va me permettre de préciser les malentendus qui se sont levés. Et d'abord, je tiens juste à vous dire, moi qui ai grandi dans une école privée catholique et à l'école publique, j'ai fait les deux, et j'ai appris des choses passionnantes dans les deux. J'ai peu appris le 19e siècle et la Révolution dans mon école privée catholique, mais j'ai appris des choses passionnantes par ailleurs. Je peux vous dire que je ne généralise pas. Je sais qu'il y a des écoles privées, y compris des écoles privées catholiques, qui font un travail remarquable et qui sont d'un très très bon niveau.
Parce que vous avez juste eu une phrase, l'école catholique, c'était un peu globalisant, qui prône haine de la République. Donc j'imagine que vous distinguez en
Merci Thomas Legrand de me permettre de préciser que je pensais à quelques écoles en particulier, de même que quand je dis les écoles musulmanes, qui peuvent souffler sur la haine de la République, je pense à quelques écoles privées musulmanes particulièrement intégristes. Je pense à des lycées tenus par l'Opus Dei et qui ont des subventions publiques, par exemple, pour être précis. Je ne pense pas à l'ensemble des écoles privées catholiques. Maintenant, je vous reconfirme mon souhait, c'est que je pense que effectivement l'école privée accueille aussi tous les enfants, certes, mais qu'elle peut le faire avec ses frais de scolarité propres et qu'elle peut continuer à le faire et que je souhaite vivement qu'on redonne toute l'attraction nécessaire et toute sa force à l'école laïque en priorité.
Les réseaux sociaux, Laetitia Gaillet.
Eh bien, Caroline Fourest, il y a une question de Christophe, ou plutôt une remarque. Est-ce que Caroline Fourest a le courage, au point d'appeler à l'abrogation de la loi Debré pour le retour d'une laïcité forte, la loi Debré de 59 sur le financement des écoles privées?
Ce qu'on a évoqué.
C'est ce que j'ai fait en première partie.
Il
y avait une autre question. Est-ce que, selon vous, Jean-Louis Bianco a-t-il toujours sa place à la tête de l'Observatoire de la laïcité?
Ah! Alors, Jean-Louis Bianco, ça c'est un chapitre de votre livre, Caroline Fourest.
Non, il n'a pas sa place, la tête de l'Observatoire de la laïcité, qui par ailleurs, je n'ai pas de désaccord avec Jean-Louis Bianco sur le modèle laïque, sur ses réglages juridiques, et même des fois on s'est plutôt retrouvé face à des ultra-laïques qui voulaient aller trop loin. J'ai un désaccord profond avec Jean-Louis Bianco sur le fait qu'un Observatoire de la laïcité doit aussi observer et être vigilant envers les ennemis de la laïcité dans cette période critique. Je disais ni persécution, ni capitulation. Et quand les deux principaux animateurs de cet observatoire passent plus de temps à flatter, collaborer avec les ennemis de la laïcité, qui font des amalgames toute la journée entre laïcs et islamophobes, qu'à soutenir ceux qui défendent la laïcité, je pense qu'effectivement c'est une nomination à contre-emploi.
On a l'impression quand même que ce sont des querelles de, pardon du terme, des querelles de chapelle, des inimitiés personnelles qui fondent ces oppositions.
Patrick Cohen, si vous avez cette impression, c'est qu'on n'a pas assez de temps dans les médias pour pouvoir approfondir, parce que je vous assure, moi je n'ai aucune inimitié contre Jean-Louis Bianco, mais vraiment absolument aucune.
Non,
ce sont des débats de fond.
Non, mais contre ceux avec qui parfois il mêle signature où il partage des tribunes.
Quand, encore une fois, le premier geste de l'Observatoire de la laïcité au lendemain des attentats du 13 novembre est de signer un appel avec le rappeur Medine, avec le collectif contre l'islamophobie qui mène les campagnes et les chasses aux laïcs que l'on subit tous, avec tous les organismes qui, au fond, sont ceux qui le font détester la laïcité et qui font croire à des générations entières que la laïcité est islamophobe, c'est normal que des laïcs considèrent qu'il y a un souci. Et puis ça n'est qu'un geste parmi d'autres, je reviens là-dessus dans le livre. Ce ne sont pas des querelles de chapelle. Je vais vous dire une chose, il y a une boussole à avoir sur ces débats. Il y a des débats qu'on peut avoir très calmement entre démocrates sur, encore une fois, comment on règle le modèle laïque, est-ce qu'il faut ou pas étendre l'interdiction à certaines sphères dans la société. Ça c'est un débat qu'on peut avoir très tranquillement, mais il y a un axe sur cette boussole, qui est la question de la vigilance vis-à-vis des ennemis de la République et de la laïcité, qui sont aujourd'hui très en forme. Quand on n'a pas cette vigilance, c'est normal que les débats soient vifs, surtout quand ceux qui sont censés représenter l'État et cette vigilance sont défaillants. C'est normal qu'on leur demande des comptes.
Caroline Fourest, génie de la laïcité, vous restez avec nous. On va accueillir Augustin Trapenard dans un instant et retrouver Alex Vizorek. Il est 9h05. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité.
Oui, bonjour Caroline Fourest.
Bonjour.
Bon, pour ne rien vous cacher, vous le savez, je trouve votre analyse très intéressante, mais quand je vous entends marteler ce mot laïcité, je peux pas m'empêcher d'être inquiet, parce que la laïcité, dont la définition, vous en conviez d'ailleurs dans votre livre, varie quand même selon chaque intervenant. On parle plus que de cela. C'est devenu le centre de tout, et vous la défendez contre vents et marées en disant, c'est assez passionnant d'ailleurs, que c'est une utopie, une très belle utopie. Mais vous savez pourtant, parce que vous êtes une intellectuelle, que Thomas More disait de l'utopie en la théorisant, qu'il faut s'en méfier parce qu'elle implique aussi qu'on ne peut plus la contester, qu'on ne peut plus la questionner, qu'on ne peut plus en discuter. L'utopie, elle a quelque chose de totalitaire. Et si la laïcité, comme vous le dites, c'est une utopie, est-ce que ça veut dire, car une fois, est-ce qu'on ne peut plus vous contredire, qu'il n'y a plus de débat ? sur la laïcité.
Écoutez, j'ai pas l'impression qu'on se prive de me contester, de débattre, et tout le monde débat de la laïcité dans un sens et dans l'autre. Mais j'ai envie de vous dire, Augustin, que si vous avez peur de la laïcité comme étant totalitaire, essayez la théocratie, vous verrez.
Non, je m'inquiète qu'il y ait autant de définitions de la laïcité.
C'est bien la preuve que le débat est vif et donc qu'il existe et donc qu'il n'y a pas de sacralisation excessive. Mais si les gens se raccrochent autant et essayent de proposer cette voie médiane qu'est la laïcité, c'est que c'est le seul chemin vers la fraternité. Si vous n'avez pas la laïcité et si ça n'est pas un point de ralliement aujourd'hui, dans la période actuelle que nous connaissons, vous aurez le retour à l'identité. Et le retour à l'identité, là on sera d'accord, il y a un risque de totalitarisme.